Mais ce passage nous parle d'avoir part à la gloire de Dieu. Et je sais pas si, qu'est-ce que le mot glorieux évoque pour vous, hein? On a tous des images différentes. Sûr que si c'est les petits anges avec leurs ailes, l'auréole, l'harpe sur le nuage, je comprends qu'on ne soit pas passionné, hein? Mais Dieu a voulu que nous ayons part à sa gloire, c'est-à-dire partager sa gloire avec nous. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire et comment ça veut dire, mais pour moi, et ça c'est juste dans mes images à moi, hein, je sais que quand, par exemple, le printemps arrive, là, après l'hiver, hein, et puis tout d'un coup, tout est vert, et vous savez, ces matins-là où tout est clair, avec le soleil qui arrive, la lumière, et quand il y a quelque chose comme ça qui me coupe le souffle, le mot qui me vient, c'est glorieux. Quand c'est tellement beau et tellement grand que vous pouvez plus respirer, quoi, hein. Quand on est amoureux et qu'on voit arriver la personne qu'on aime, et ça vous fait des nœuds dans tout l'estomac et des chatouilles partout, et vous savez plus, vous perdez vos moyens, vous n'arrivez plus à parler, et vous, en même temps, vous voulez que ça s'arrête pas, mais que ça commence, c'est glorieux. Hein. Et beaucoup d'autres choses comme ça. Mais Dieu, qui a créé toutes ces choses-là, et d'autres choses encore, veut partager cette gloire avec nous. Et ce qui est extraordinaire, c'est que, à cause de ce que Christ a fait, nous sommes en paix. Mais pas juste qu'il n'y a plus la guerre. Qu'est-ce qui se passe en temps de paix, hein? Ben oui, il n'y a plus le combat. Donc, on va pouvoir vivre. En temps de guerre, c'est pas l'époque en général où on développe la littérature, où on écrit des pièces de musique. C'est pas le moment où on construit des œuvres d'art. C'est pas le moment où on a du temps pour aller promener avec quelqu'un, apprendre à le connaître. En temps de guerre, il faut essayer de rester en vie. Et puis, si on peut lutter contre l'adversaire, on va le faire. C'est tout. On est en mode survie. Dieu vient et nous donne la paix. Et puis nous, on imagine que la paix, ça veut dire que, excusez-moi, je veux pas être irrévérencieux, mais que maintenant Dieu nous fout la paix. Hein? Avant, Dieu voulait m'envoyer en enfer, maintenant je suis à paix avec lui, il me laisse tranquille. C'est triste si c'est ça. C'est vraiment triste. Hein? Dieu a mis un état de paix, c'est-à-dire, il n'y a plus cette pression sur moi, tu es un pécheur et tu vas être séparé de moi pour l'éternité et tu vas mourir dans ton péché et c'est irrémédiable, hein, l'épée de Damoclès qui est là au-dessus. Dieu l'enlève à cause de l'œuvre de Christ, par grâce, pour nous dire, maintenant, regarde, il n'y a plus de pression sur toi, tu n'es plus en danger, tu es en sécurité, tu n'as plus à avoir peur de moi, tu devrais, tu pourrais parce que je suis un Dieu saint. Et je suis un Dieu grand, et je suis un Dieu juste. Et puis si Christ n'avait pas fait ce qu'il a fait, rien que de penser à toi, tu serais même pas un petit tas de poussière. Mais maintenant, la paix règne à cause de ce que Christ a fait. Tu n'as plus à avoir peur. Pas parce que Dieu est devenu gâteux, et puis gentil, et puis, mais c'est pas grave le péché, mes enfants, tout le monde le fait. Non. Hein? Dieu est toujours un Dieu saint, qui peut pas voir le péché. Mais Christ est venu. Hein. Puisque nous avons été déclarés justes en raison de notre foi, nous sommes en paix avec Dieu grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous en faisons quoi de cette paix? Ben, très souvent, on est comme le fils prodigue. Hein. Ben, moi, je suis resté dans la maison et comme ça, le Père me fout la paix. Je travaille pour lui. J'ai jamais rien fait de mal. Et au fond de nous, il y a quand même cette idée, ouais, mais c'est quand même pénible d'être chrétien. Hein. Dimanche matin, au lieu d'aller marcher quand il fait beau, je vais à l'église. Le jeudi soir, au lieu de regarder le film, je vais à la réunion de prière. De temps en temps, le samedi, il faut que je sacrifie pour faire ça. En plus, il faut lire sa Bible. En plus, je peux pas trop mentir, je peux pas trop voler. Je dois garder la même femme toute ma vie. Mais bon, vous comprenez, si je veux que Dieu me laisse en paix, c'est le prix à payer, quoi. C'est quoi cette vision du christianisme, hein? C'est triste, parce que c'est pas ça que Dieu veut. Pensez à tout ce que Dieu a créé. C'est sûr, on l'a abîmé, la création, mais quand même, tout ce qu'il en reste. C'est extraordinaire, c'est beau, c'est magnifique. Hein. Comme j'ai souvent dit, moi, quand je regarde un documentaire sur la vie des Manchots empereurs, je m'arrête toujours au milieu pour prendre un moment pour louer Dieu. Je me dis, ça, c'est mon Dieu. C'est glorieux, un truc pareil, quoi. les petits vaisseaux qui vont en bas dans les pieds pour que ça gèle pas l'œuf qui est dessous, qui passe d'un à l'autre, qui va, il revient, il donne, il marche autour, il revient, tous les 5 ans, ils s'en vont, ils se retrouvent avec la petite boussole qui est incorporée pour que il y en a pas deux les mêmes, ils ont chacun un cri, au milieu des milliers, la femelle reconnaît le cri du mâle, ils se retrouvent. Ça, c'est juste une espèce d'animal. Ça, c'est notre Dieu glorieux. Hein. Et puis, il nous dit, moi, j'ai envie de partager ma gloire avec toi. C'est-à-dire que tu aies une vie riche, pleine, extraordinaire, pas sans épreuves, pas sans difficultés, etc. Et ça, c'est avec. Mais... Et puis, nous, on dit, Christ est mort, il me laisse en paix. Je suis plus en guerre. Enfin, je vais pouvoir faire ce que je veux sans aller en enfer. Alors il y a un petit prix à payer, ben ouais, on peut pas trop s'éclater, on peut pas trop s'amuser, il faut rester raisonnable, mais quand même, c'est mieux que la damnation éternelle. C'est lamentable, c'est horrible. Imaginez dans une relation entre un homme et une femme qu'un des deux partenaires vive la relation comme ça, quoi. Si vous étiez l'autre, vous lui direz, mais tire-toi d'ici, vite. Je préfère être seul qu'être avec toi, hein. Un homme, vous comprenez, ouais, tu sais, chérie, tu n'es pas la plus belle, mais il en fallait une, c'est toi. Hein, et puis, c'est pas que ce soit forcément agréable d'être avec toi, mais finalement, avec une autre, ce serait peut-être aussi pénible. Et puis, bah, tu n'es pas la plus belle, mais il y en a des plus moches. Hein, donc, après tout, maintenant, ça fait déjà 10 ans qu'on est ensemble, on va pas chercher ailleurs. Hein, alors, bah, on continue comme ça, quoi. Hein. Bon, bah, écoutez... Hein, tu connais le proverbe « mieux être seul que mal accompagné » Sur le couloir, c'est tes bagages. Merci, au revoir. Mais honnêtement, je suis comme ça avec Dieu. Comme le fils aîné. Je reste à la maison, je fais rien de mal. Et puis alors, en plus, si en plus je suis un peu un brin pharisien, je regarde l'autre qui est parti avec la moitié de l'héritage. Je suis jaloux parce que moi, j'ai pas osé partir. Et puis quand même, oh, quelle horreur. Oh, c'est pécheur. Oh. Oh, que c'est mal le péché! Hein? Et au fond de moi, je me dis, ils ont bien de la chance quand même, hein? Seulement moi, je peux pas. Non. Puisque nous avons été déclarés justes en raison de notre foi, nous sommes en paix avec Dieu grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a mis en sécurité. Cette sécurité, c'est quoi? C'est que quoi qu'il se passe, il va toujours nous aimer. Quoi qu'il se passe, il sera toujours de notre côté. Il sera toujours avec nous, pour nous, inconditionnellement, parce que ça dépend de lui et pas de nous. C'est pas extraordinaire. Déjà, ça, c'est glorieux comme pensée. Parce que même nos plus proches amis, même nos enfants ou nos parents, ou qui peut être comme ça avec nous? Personne. Avec qui je suis comme ça? Avec personne. Mais Dieu est comme ça avec nous. Par lui, verset 2, donc par Jésus-Christ, nous avons eu accès au moyen de la foi à ce don gratuit de Dieu, dans lequel nous nous trouvons désormais établis. Le mot établi ici parle de construire une maison. Ce que Dieu veut, on est comme des explorateurs ou des pionniers. On a quitté un pays dangereux, maudit, pourri, dans lequel on vivait par la comparaison, on vivait par l'arrogance, par l'orgueil, par la haine, par la jalousie. Et puis, c'est une autre épître qui le dit, mais Dieu nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Hein. On passe un océan, si on veut, on arrive dans un nouveau pays, et puis là, Dieu a réglé le problème. Dans ce pays, il n'y a plus d'ennemis. Il n'y a pas d'animaux qui peuvent nous tuer, il n'y a pas des méchants qui nous veulent du mal. On est en sécurité. Et là, il nous dit, maintenant... Prenez possession de ce pays. Allez-y. Découvrez-le, construisez, bâtissez, inventez, vivez là-dedans, dans ma présence, parce que j'ai établi la paix dans cet endroit pour que vous y viviez. Et bien sûr, tout ça, c'est pas, ça se voit pas dans le monde physique, hein, c'est à l'intérieur de nous-mêmes. Mais on sait très bien que la réalité, elle est là. Hein. On a tous vécu ces moments où il fait beau, j'ai pas de problème d'argent, je suis en bonne santé, tout va bien, et je suis misérable parce que ça va pas à l'intérieur. Et puis ces moments où j'ai quand même mal ici, je sais pas avec quoi je paierai les factures demain, il y a ci, il y a ça qui va pas, mais je suis rempli de joie parce qu'à l'intérieur ça va. Hein. Quand les deux peuvent aller, encore mieux, on n'est pas contre. Mais il y en a un qui prime sur l'autre. Et c'est dans ce domaine intérieur que Dieu est venu établir sa paix à cause de Jésus-Christ. Et là, il y a l'apôtre Paul, parce que quand Paul écrit ça, il n'avait pas une vie simple. Hein. Quand je dis une vie pas simple, c'est un euphémisme, c'est pour plaisanter. Il avait une vie difficile, compliquée, pleine de souffrances. Mais il était tellement rempli de cette réalité, de ce partage de la gloire de Dieu, qu'il dit ceci. Mais mieux encore, nous tirons fierté même de nos détresses, car nous savons que la détresse produit la persévérance. Le mot pour persévérance ici, il parle de la capacité de marcher en portant quelque chose sans s'arrêter. Hein. Être dessous, c'est lourd, mais j'abandonne pas et je continue à marcher. Et la Bible nous dit ailleurs dans l'Épître aux Corinthiens que de toute façon, avec chaque épreuve, Dieu a mis dedans ce qu'il fallait pour qu'elle ne nous écrase pas. Pas pour qu'elle disparaisse, mais qu'on puisse la porter sans qu'elle nous tue. Donc ça produit la persévérance. La persévérance produit la victoire dans l'épreuve. Le mot là pour victoire dans l'épreuve, c'est un petit peu ce que font les dames dans l'atelier d'Éric. Vous savez, après qu'il ait fait les pièces, il y a des dames qui sont avec un microscope, avec des appareils, etc., qui vérifient chaque pièce pour voir si elle est conforme aux normes de l'ingénieux concepteur. Hein? Et puis, si une pièce correspond, elle est mise dans une boîte, elle est approuvée. C'est le mot dokimé en grec. Et celle-là, elle a réussi le test. Les autres, ben, il faut les jeter, les refaire, j'en sais rien. Les donner à Philippe pour qu'il fasse des pointes de fléchettes, des choses comme ça, hein, en général. Mais c'est de ça que ça parle. Hein. La détresse produit la persévérance, et la persévérance, la victoire dans l'épreuve. C'est-à-dire que on va être approuvé, hein, jugé, ouais, c'est bon, il y a ce qu'il faut. Et cette victoire dans l'épreuve nourrit l'espérance. Alors, l'espérance, quand on parle de ce mot, c'est vrai que dans notre langage, en tout cas en français, l'espérance, c'est souvent un synonyme de ben, « peut-être », j'espère. Hein. Vous venez à la prochaine journée de formation pour l'évangélisation, quand on me dit « ouais, j'espère », je sais ce que ça veut dire, hein, je vous verrai pas. Hein. C'est pas « je suis convaincu que j'y serai et ça remplit ma vie », c'est « ouais ». C'est une possibilité, mais elle est très incertaine. Mais l'espérance dont il est parlé ici, c'est autre chose. C'est une certitude de quelque chose qui est absolument certain, mais que j'ai pas encore, et dont j'en ai juste une garantie. Et c'est pour ça que cette espérance, elle n'est pas sans quelque chose qui va avec. Or, l'espérance ne trompe pas. Car l'amour de Dieu a été, c'est fait, versé dans notre cœur. Notre espérance, c'est quoi? On a beaucoup de choses, mais entre autres, c'est qu'on va partager la gloire de Dieu un jour pleinement. Là, pour le moment, c'est intérieur. Un jour, ça sera dans tout notre être. On aura un nouveau corps, on sera dans une nouvelle terre, je sais pas comment ça va se passer. Ça va être glorieux et on y sera dedans. Et on ne sera pas sur un nuage avec des petites harpes à s'ennuyer, à chanter des vieux cantiques qui ressemblent à rien. On sera dans une terre encore plus belle que celle où on est aujourd'hui, à faire des choses encore plus passionnantes que les choses qui nous passionnent aujourd'hui, sans le péché, sans le mal, sans jalousie, sans rien de tordu, à découvrir l'infinité de la grandeur de Dieu dans tous les domaines. Ça va être exceptionnel. Ça, c'est notre espérance. Et cette espérance, on en a les arts, hein. Un acompte qui a été versé, c'est l'amour de Dieu qui est aujourd'hui dans notre cœur, pas au ciel, aujourd'hui. Ça, c'est concret pour nous. Alors, ça se voit pas trop sur la surface de la terre, effectivement, mais pour nous, ça se voit, c'est là. Cette espérance, elle ne trompe pas, parce que l'amour a été répandu dans nos cœurs. Et puis, Paul continue encore son développement en disant, lorsque nous étions encore sans force, Christ est mort pour les pécheurs. Puis là, c'est un petit peu compliqué comme il explique, mais pour faire simple, qu'est-ce que Paul est en train d'expliquer? Il dit, écoutez les gars, quand Christ est mort, vous étiez quoi, vous? Vous étiez les gens qui lui crachaient au visage, qui plantaient les clous, qui disaient, crucifie, ouais, pourri, ouais, il est méchant, faites-le mourir. On était tous là, hein? Par notre vie, par notre nature, par notre péché, on était là. Et dans ce moment-là, alors qu'on était ses ennemis, il a dit, je vous aime, je vous pardonne, et je vous aimerai toujours. Aujourd'hui, qu'à cause de ce qu'il a fait, nous sommes en paix avec Dieu. Nous avons été déclarés justes. C'est pas juste, mais on a été déclarés justes. On fait partie de sa famille. Il a choisi de mélanger sa génétique à la nôtre, donc on a été adopté dans sa famille. Comment on peut imaginer qu'aujourd'hui, il va pas être pour nous? Quand on était contre nous, il était pour nous. Maintenant qu'on fait partie de sa famille, qu'est-ce qu'il pourrait faire qu'il soit contre nous? Ah, mais il n'est pas un assez bon chrétien. Non, quand il m'a sauvé, je n'étais pas un assez bon chrétien, j'étais une ordure. Oui, mais il n'a pas réussi à faire ci, à faire ça. Non. Quand il m'a racheté, il n'y avait absolument rien de bon, de gentil, d'intéressant. C'était pas une affaire. Il n'y avait rien de bon. C'était du matériel pour la poubelle ou pour l'enfer. Et là, Dieu a décidé, de son côté à lui, unilatéralement, de me pardonner, de me sauver, de me régénérer, de me racheter, de me faire son enfant, de me faire partager. Toutes ces choses-là, il les a décidées, lui, de son côté. Comme ça, par amour gratuit. On ne peut pas le comprendre, hein, on ne sait pas ce que c'est l'amour gratuit. On est toujours intéressé. Mais maintenant qu'après avoir fait tout ça, il nous voit propre, pur, à travers son Fils. Il nous amène dans un pays qui est le sien. Il établit la paix pour qu'on puisse y vivre. Et là, on vivrait dans cet endroit, dans la crainte de ne pas être assez bien pour Dieu. Ça n'a pas de sens. C'est ce que Paul explique là. Hein. Parce qu'il dit, bon, à peine accepterait-on de mourir pour un juste. Peut-être quelqu'un aurait-il le courage de mourir pour le bien. Mais voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous. Quand nous étions encore... des saletés tordues pourries irrécupérables, il y a écrit pécheur, mais c'est pareil, le Christ est mort pour nous. Donc, puisque nous sommes maintenant déclarés justes grâce à son sacrifice pour nous, nous serons à plus forte raison encore sauvés par lui de la colère à venir. Alors que nous étions ses ennemis, on n'était pas juste mauvais, on était ses ennemis. Hein? C'est pas juste que, j'étais pas là quand il s'est fait crucifier, je l'ai pas aidé, quoi. Non, non, j'étais là. En train de dire, allez-y, crucifiez-le, relâchez Barabbas, il est comme moi. Allez. Mais lui, crucifiez-le, on n'en veut pas. Hein. Vous vous rappelez, je crois que je vous ai déjà raconté cette histoire, mais c'est vrai. Hein. Quand Mel Gibson a fait son film sur la crucifixion, là, qu'on aime ou on n'aime pas, c'est notre sujet, il a été interviewé dans plein d'endroits, etc. Et puis on lui a dit, mais vous êtes un acteur célèbre, comment ça se fait que vous n'ayez pas voulu avoir au moins un petit rôle dans ce film-là? Il a dit, mais j'ai un rôle qui n'est pas petit, qui est important. Ah bon? Oui. On voit pas mon visage, mais les mains qui tiennent le marteau dans la crucifixion, c'est moi. Et je voulais faire ce rôle parce que c'est mes péchés qui ont cloué Jésus sur la croix. Bon, après, sa vie, peut-être pas un bon témoignage, on peut discuter tout ce qu'on veut, mais cette chose-là, c'est extraordinaire qu'il ait compris ça. Mais ça, c'est le cas de chacun d'entre nous. Hein. Qui tenait le marteau pour planter les clous, c'est moi. Parce que c'est mes péchés qui ont rendu cette chose obligatoire. Alors, pas que les miens, on est d'accord. Mais j'y étais. Et c'est ce que Paul dit ici, lorsque nous étions ennemis avec Dieu, pas juste des gens méchants mais qui s'en moquent. Non, non, on était là actifs. Dieu nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. À plus forte raison maintenant que nous sommes réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Il dit pas sa mort, sa vie. C'est-à-dire que la mort de Christ nous a assuré la paix avec Dieu, la réconciliation, etc. Mais la vie de Christ nous propose de partager sa gloire, partiellement aujourd'hui et pleinement dans le futur, proche ou moins proche, ça dépend pour qui. Mieux encore, nous plaçons désormais notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a obtenu la réconciliation. Comment on peut expliquer que, avec les 12 apôtres qui étaient des incapables notoires comme nous, et ce qui a suivi, en une génération, le monde connu de l'époque a été bouleversé par l'Évangile. Comment on explique ça? Puis alors, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de beamer, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait rien. Quoi. C'était à pied, certains ne savaient pas écrire, il n'y avait aucun moyen. C'est que ces gens-là avaient été retournés, bouleversés par ce message. Alors c'est vrai qu'ils vivaient dans une culture, en tout cas pour les premiers disciples qui étaient juifs, le but d'un juif quand il grandissait à cause de son éducation et de sa culture, c'était être pur. Et ils passaient leur vie à essayer d'être pur. Hein. avec les machins, je me lave les pieds, je me lave les mains, et je mets le truc, et je mets le machin, et je mange de ça, et je mange pas de ça, et je touche ça. C'était traumatisant, la vie dans cette culture-là. Toujours essayer d'être pur, quoi. Et d'un coup, il y a quelqu'un qui arrive et qui leur dit, vous savez quoi? Vous y arriverez pas, mais maintenant, je vous déclare pur. À cause de ce que je fais. Ils étaient sidérés, bouleversés. Nous, on vit dans une culture où c'est une honte d'être impur, quoi. Alors, c'est vrai que c'est difficile. Parce que plus on est pourri, mieux c'est. Plus c'est dégoûtant, mieux c'est. Plus c'est trash, mieux c'est. Une chose magnifique, elle est d'enfer. C'est tout. On vit à l'envers. Et ça, la Bible nous l'annonce, hein. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, appelant le mal bien. Nous, on vit à ce moment-là. Alors, c'est vrai que c'est plus compliqué. Quand j'expliquais l'évangile à ce jeune hier, et puis que j'expliquais qu'il y avait une bonne nouvelle, il voyait pas où était la mauvaise nouvelle. Écoute, moi, je suis bien, quoi. Tout va bien. En même temps, non, parce qu'il savait que ça allait pas. Mais on n'est pas dans le même contexte. Mais lorsque la grâce de Dieu nous touche, lorsque son esprit éclaire nos yeux et que ses réalités percutent nos vies, il se passe quelque chose, ou il devrait se passer quelque chose. On réagit différemment. Toujours ce jeune, hier, il me disait, ouais, vous comprenez, vous savez comment c'est la vie ici, hein? Entre le travail, les amis, l'école, etc., si en plus il faut que je prenne du temps pour chercher Dieu, je vais pas y arriver, quoi. Je dis, ouais, mais qu'est-ce que tu me dirais si je te disais, c'est avec le travail, les amis, l'école, etc., tomber amoureux, ça serait une perte de temps, hein. Je dis, mais non, mais ça, c'est pas pareil, quoi, hein. À 22 ans, hein. Je dis, mais c'est pareil. C'est pas une perte de temps de rencontrer Dieu. C'est ce qui va mettre à sa place tout le reste. C'est ce qui va donner son sel à tout le reste. C'est ce qui va faire que tout ce que tu vas faire à côté va prendre sa vraie dimension. Et puis, écoutez, bien, ça faisait son travail. Mais je me disais, au fur et à mesure que j'expliquais, qu'on en parlait, je me disais, mais pourquoi je le comprends pas, moi? Pourquoi ça me touche si peu? Là, dans ce moment-là, ça me touchait parce que j'étais en train de lui partager, puis que le Saint-Esprit, pour le toucher, me parlait. C'est une des raisons pour lesquelles on a besoin de partager notre foi. Au-delà des résultats, c'est aussi pour que les gens entendent et aient une possibilité. Mais c'est un exercice indispensable à notre vie spirituelle. Je dis pas ça pour vous mettre de la pression, pour vous condamner, puisqu'il n'y a pas de condamnation, hein. Mais c'est juste une partie de notre hygiène spirituelle. Si ça y est pas, ça manque. Et après, on invente des choses. Je le dis tout le temps, mais l'homme n'a pas été créé pour aller soulever de la fonte dans une salle de musculation. Mais parce qu'aujourd'hui, il gagne sa vie assis derrière un ordinateur, il doit aller dans une salle soulever de la fonte s'il veut avoir des muscles. Mais je disais, quand je vois Fred, je me dis, effectivement, il n'a jamais été de sa vie dans une salle de musculation. Et il a eu le privilège, on l'a pas tous, de pouvoir gagner sa vie, il y a une activité qui faisait que il remuait ses muscles, hein, normalement. Pareil pour le chrétien. Quand je vais partager ma foi, j'ai pas besoin de programme après pour me stimuler, pour m'encourager, pour que ce soit intéressant, que ce soit... Ça se fait tout seul parce que c'est la vie normale. Et on en a besoin d'une façon ou d'une autre. Il n'y a pas une seule méthode ou une meilleure qu'une autre ou on doit le faire, quoi. Alors, je reprends juste ça. Et je conclue avec deux autres passages de l'Épître aux Romains, hein, Romains 8, 31. Que dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous? Lui qui n'a même pas épargné son propre fils, mais l'a livré pour nous tous, comment ne donnerait-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera encore les élus de Dieu? Dieu lui-même les déclare justes. Qui les condamnera? Le Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Et puis Colossiens 27, Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Par sa mort, on est en paix et sa vie est en nous. Et on a tout avec ça.